l'homme, s'il ne bande pas, ce n'est plus un homme, quoi. Je veux dire, c'est ressenti tel quel. Mmh. Et ça, ce côté-là est important. Même si après, il y a d'autres complications sur le stimuli, la manière dont on peut avoir du plaisir, et ainsi de suite.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les maux qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirst London, les cliniques Boisserre et Cécile, et le quotidien 24 heures.
C'est un épisode un peu spécial que vous écoutez aujourd'hui. Il est enregistré en public à la clinique Boisserre. Le mois de novembre rime depuis quelques années avec Movember, ce mouvement qui vise à sensibiliser sur les problématiques de santé typiquement masculines, notamment les cancers comme celui de la prostate. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Enfin, nous allons plutôt évoquer ce qui gravite autour de la maladie, comment la vie se redessine après l'annonce, quelles conséquences pour les interactions sociales, le travail, mais aussi la vie sexuelle souvent impactée par cette maladie. Donc pour en parler avec nous ce soir, j'accueille Leïla Mamfeh, infirmière spécialiste en oncologie et en soins palliatifs. À ses côtés, le docteur Alfredo Velardi, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, et Étienne Roduit, qui témoignera de son expérience, tout comme Yves Menoux, qui est aussi président de l'association Prosca. Bonsoir à vous quatre.
Bonsoir.
Donc on va commencer ce podcast en évoquant un petit peu vos parcours respectifs et notamment un moment clé dans la maladie, Étienne Roduit, celui de l'annonce du diagnostic. Il y a un avant et un après.
Oui, c'est vrai que quand on va chez le médecin, qui nous fait une prise de sang, et puis que 2-3 jours après, nous appelle pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut aller plus loin, qu'il faut aller voir un spécialiste, c'est compliqué. C'est une première étape qui, on se dit, bon, ben, voilà, il faut y aller et on y va. L'urologue, il nous fait tout plein d'examens, il nous envoie faire un IRM et le résultat, il tombe. C'est mauvais. Donc, on envisage soit des rayons, soit une ablation. Enfin, il y a plein de choses qui nous explique, sans aller trop dans les détails. Et puis, le cerveau, il commence à travailler. Beaucoup, beaucoup.
Qu'est-ce qui vous raconte votre cerveau à ce moment-là ?
La maladie, le cancer, c'est quelque chose qui est... C'est difficile à accepter, ce mot cancer. Et il faut arriver à réagir positivement à ça. Il faut l'annoncer aussi à la famille. Et c'est... ouais. C'est des souvenirs qui sont un peu compliqués. Il faut remettre les choses en place et c'est franchement pas évident. Quoi.
Parce que vous, c'était il y a quelques années.
Oui,
ça
fait 2 ans et demi. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait.
On sent qu'il y a encore de l'émotion.
Oui, encore. Ouais.
Vous vous reconnaissez, Yves Menoux, dans cette expérience ?
Oui, la première chose, c'est que quand on nous annonce un cancer, on n'est pas malade. Quand il est détecté tôt, on n'a pas de symptômes, on est en pleine forme. Et puis c'est quelque chose, c'est un train qui nous arrive dessus. Moi, mon cancer, le cancer est entré dans ma vie avec la mort de mon père. Ce qui m'a fait réfléchir, je me suis un peu documenté. J'ai par la suite commencé à décider de faire des contrôles plus tôt que ce qui était programmé. J'ai commencé à 40 ans. J'ai été la première fois chez un neurologue. Il m'a dit, oh, tout va très bien, on se revoit dans 2 ans. Je l'ai regardé, puis j'ai fait, puis si c'était vous? Ah, on se revoit l'année prochaine. Et on a bien fait de se revoir tous les ans, puisque mon cancer a été détecté il y a 12 ans, mais j'avais 46 ans à l'époque. Donc suffisamment tôt, mais il y avait déjà une belle tumeur dans ma prostate. Et si je n'avais pas été proactif sur ma propre santé, je ne serais pas aujourd'hui là pour en parler. Mais je rejoins le fait qu'on apprend quelque chose et on n'a aucun symptôme, et que ça, il faut le digérer. On n'est pas malade, tout va bien, et du jour au lendemain, on a un certain nombre de décisions à prendre, des informations à donner au niveau professionnel, familial. Et le fait que, dans mon cas, comme dans le tien, l'ablation de la prostate, c'est pas anodin. Il y a des symptômes. Alors, des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe moins bien. Mais des premiers symptômes, je le racontais juste avant l'émission, mais le chirurgien, juste le jour avant l'opération, m'a dit, mais monsieur Menou, à partir de l'opération, vous n'allez plus éjaculer. Comment ça, je ne vais plus éjaculer? Voilà, une première castration. Quand on a 46 ans, sa vie est un peu bousculée. Et aussi, une des choses sur lesquelles il faut comprendre, c'est quand on a ce mot cancer, tu le disais, c'est quoi l'espérance de vie? C'est 2, 5, 10. Comment je me projette? Et là, il y a un certain vide. Où on est des fois un peu seul et on se retrouve le soir dans son lit vraiment seul. Et là, il faut commencer à avoir une certaine positivité, prendre des forces et aller de l'avant.
Ça, Alfredo Velardi, on l'entend, c'est assez récurrent dans les témoignages, le fait de ne pas se sentir malade, d'être quelqu'un de bien portant, et tout d'un coup, il y a une annonce. Et on devient, en l'espace de quelques secondes, de bien portant à malade. Qu'est-ce que ça provoque?
Alors, c'est quelque chose qu'on voit pas seulement dans le cancer de la prostate, hein, on le voit dans le cancer au sens large du terme. Il y a, comment dire, il y a souvent un déni, c'est-à-dire il faut déjà métaboliser l'information, et puis la personne, après, quand elle va faire son parcours, on va dire médical, elle va pas forcément prendre conscience de tous les impacts, elle les prendra au fur et à mesure des effets secondaires et puis des conséquences. Et puis des fois, moi j'ai eu des patients qui me disaient, bon voilà, ils ont foncé droit, c'est-à-dire il fallait y aller, il fallait le faire. Puis c'est après coup qu'il y a comme un espèce de retour sur tout ce qui s'est passé. Puis là, on commence à réaliser petit à petit, progressivement. Mais c'est un processus qui est assez, je dirais, assez logique, assez normal, hein, qu'on voit dans d'autres cancers aussi, exactement la même chose. Ouais. Après, le phénomène, comme tu disais, de la solitude, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Il y a aussi le fait de ne pas inquiéter ses proches et surtout de pas, enfin, de pas trop en parler parce qu'on veut pas que les proches soient inquiets. Il y a aussi tout ça qui. Puis après, il y a l'aspect de la honte, hein, qui vient dans un deuxième temps.
Ça, c'est quelque chose que vous avez vécu, cette difficulté à en parler à vos proches?
Oui, moi, je me suis mis dans une bulle pendant quelque temps. Il m'a fallu bien 1 mois et demi, 2 mois pour réagir, pour réaliser, jusqu'à ce que je reçoive la date de l'opération. Et à ce moment-là, j'ai commencé à en parler autour de moi, mais pas que dans la famille, avec des collègues, avec des amis. Et ça m'a beaucoup aidé à surmonter l'opération et l'ablation,
De
puisque
vous ouvrir.
oui, ça m'a beaucoup aidé.
Je reviens juste sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Vous avez appris la veille de l'opération que vous n'alliez plus éjaculer. Est-ce qu'on a un manque d'informations, Leïla Manfeh ? Est-ce que les hommes sont suffisamment informés ?
Alors moi, j'interviens en général une semaine avant l'intervention. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Étienne. Voilà. Et en fait, c'est vrai que pendant ma consultation, je vais plus axer sur tous les effets secondaires éventuels en post-opératoire, notamment la sexualité. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu banal de parler sexualité quand on annonce un diagnostic de cancer, mais ça fait partie de la maladie, ça fait partie des effets secondaires de la chirurgie. Et moi, je pense que c'est très important d'en parler pour rassurer le patient, pour aussi donner toutes les pistes qui existent pour une prise en charge et une reprise d'une activité sexuelle.
Mais est-ce que les hommes sont assez informés ? On a l'impression que, par exemple, si on compare avec le cancer du sein, non. Où il y a beaucoup d'informations depuis longtemps, là, on a l'impression qu'on est un petit peu dans une zone d'ombre.
Tout à fait, parce qu'on ne donne pas toutes les explications, notamment comme tu disais, hein, je veux dire, l'aspect de ne pas éjaculer. Moi, il faut revenir plusieurs fois dessus pour que ce soit intégré, expliquer l'utilité de l'éjaculation et puis le rapport avec l'activité sexuelle. Et c'est vrai que ce qui manque dans ce genre de parcours de soins, en tout cas pour le cancer de la prostate, c'est une infirmière qui puisse prendre en charge les patients dès l'annonce du diagnostic pour pouvoir soutenir tout le long du parcours du soin jusqu'à arriver à la chirurgie.
Dans les groupes de parole que nous avons avec l'association...
Oui, parce que vous êtes président de l'association PROSCA.
L'association PROSCA est une association qui existe d'un petit peu plus de 20 ans, qui est une association d'entraide aux patients et à leurs proches, et qui est, dans un deuxième temps, une volonté de favoriser la prévention, en tout cas le dépistage. Dans la moyenne de ces mesures, c'est une association où il n'y a que des bénévoles, donc on fait avec les moyens du bord et les temps à disponibilité. Mais pour en revenir sur cette lacune de communication, nous avons de temps en temps, dans les groupes de parole, qui sont ouverts à tous, des couples, ou simplement des femmes, ou des filles, ou des sœurs, qui viennent sans la personne malade, à la recherche d'informations et de comprendre, parce que l'homme s'est peut-être refermé, a de la peine à en parler. Il y a aussi beaucoup d'aspects culturels. On le voit très souvent avec la différence entre les pays nordiques et les pays plus chauds, où la virilité rentre en ligne de compte. Et elles viennent chez nous chercher des informations et en participant aux débats qui se font sans aucun tabou. Et on a effectivement, dans un premier temps, toujours cet aspect le plus important, c'est la maladie, le traitement contre cette limitation de notre espérance de vie. Mais tout de suite après, la sexualité revient très vite dans la discussion. Ça, c'est un point qui ressort très régulièrement.
Pourtant, vous me disiez hors micro, docteur Velardi, que ce n'est pas forcément dans votre expérience psychothérapeute la première chose qui arrive dans le cabinet.
C'est-à-dire que moi, j'ai une certaine catégorie de patients. Hein. C'est-à-dire c'est des gens qui ne vont pas bien. C'est-à-dire moi, je ne vois pas tous les cas, on va dire, de cancer de la prostate. Donc, c'est vraiment des cas bien précis. En général, qui sont envoyés par les oncologues ou des fois l'équipe infirmière, tout dépend. Et en fait, le problème au départ, c'est vraiment la survie. C'est vraiment de s'en sortir. Et puis ensuite, progressivement, les autres questions, elles vont suivre. Là, on est dans un groupe d'entraide, on est après, on est dans une autre logique. Et je dirais qu'il y a aussi, malheureusement, une catégorie de patients... quand on essaie d'aborder cette problématique, ils ne vont pas l'aborder. Ça va être plutôt madame qui va insister. Et ça vient toujours dans un deuxième, troisième temps. Mais encore une fois, moi, j'ai pas les... C'est-à-dire, moi, j'ai une catégorie bien précise de patients qui, à la base, ne sont déjà pas bien psychiquement. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure.
Mais sur cette question, justement, de la difficulté, on le sait, hein, c'est pas, les hommes ont plus de difficultés à verbaliser leurs émotions. Et dans le cas d'une maladie qui est surgie. Alors peut-être que vous allez réagir les deux. Leïla, je vais vous entendre après. Mais est-ce que justement ça complique pas tout le processus d'acceptation de la maladie et peut-être même par la suite de guérison?
Il faut savoir que dans une consultation psychiatrique, hein, je ne parle pas de la psycho-oncologie, moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. En gros, j'ai 90% de femmes qui viennent pour 10% d'hommes. Et cette proportionnalité-là, elle n'a pas changé en 30 ans, malgré, on va dire, l'évolution de notre société, une ouverture plus grande, etc. Donc là, et ce n'est pas une histoire de culture. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit. Et d'autant plus quand on est dans des maladie oncologique au sens large du terme, j'ai une proportionnalité de femmes énorme. Donc, j'ai 90% de femmes qui viennent pour 10% d'hommes. Donc, cette proportionnalité, elle ne change pas. Alors, je pense qu'effectivement, les hommes ont plus de difficultés à s'exprimer. Mais par contre, une fois que les vannes sont ouvertes, là, on va pouvoir communiquer. Mais ça prend un certain temps, je dois dire, pour que les choses sortent. Et ça ne se fait pas de manière aussi spontanée, ce n'est pas quelque chose de naturel. Il y a une espèce de pudeur, hein, des fois, chez certains patients qui prennent du temps avant de s'exprimer. Donc, des fois, il faut y aller par étapes, parce que sinon, ils vont se renfermer comme des coquilles et puis ça va s'arrêter là, quoi.
Ça, c'est aussi votre expérience ?
C'est avec la pratique que j'ai compris, pour finir, que le maître mot de ces consultations que je faisais était plutôt la sexualité que le cancer lui-même. Parce que j'explique aussi aux patients que s'ils sont opérés, c'est qu'on est plutôt dans un bon diagnostic, mais que l'effet secondaire qui va revenir. Et en fait, chemin faisant, effectivement, je dirais 90% de ma consultation, on va plus parler sexualité, des choses qu'on va mettre en place, à quel moment on va les mettre en place, et puis comment faire avec le partenaire.
Et justement, il y a de la facilité à s'exprimer ou il y a cette pudeur dont on parlait ?
Alors moi, j'ai pas eu de... Enfin, moi, je m'exprime assez facilement.
Non, mais les hommes qui viennent vous voir...
Ben, en fait, au bout de 5-10 minutes, je pense, quand ils savent qu'on maîtrise le sujet puis qu'on sait de quoi on parle, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Et puis du coup, effectivement, ils sont assez étonnés de ne pas avoir eu toutes ces informations avant. Et le but, en fait, c'est ça, c'est d'éclairer plutôt sur l'après de la maladie.
Vous avez eu ces difficultés, justement, à en parler avec les professionnels, avec votre entourage, avec vos collègues?
Alors, au niveau sexualité, j'en ai vraiment pas parlé à l'extérieur, à part avec une personne que j'ai donné un coup de main, parce qu'il allait se faire opérer quelque temps après moi. Je lui ai expliqué les choses, un peu comme Yves le fait dans ses cafés. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Ça m'a redonné un coup de peps pour avancer dans ma vie, en fait. Et pour revenir sur ce que Leïla disait, c'est qu'elle, elle est franquem, quoi. Elle est... elle s'amuse pas à attendre... 3-4 minutes, elle rentre dans le sujet direct. Donc, c'est vrai que c'est très agréable de la connaître et puis de, oui, qu'elle nous donne aussi, en parlant plus sérieusement, de tout une partie des problèmes qu'on peut avoir par la suite, quoi.
Et justement, pour le reste, alors pas nécessairement sur la sexualité, mais sur la maladie, est-ce que vous en avez parlé rapidement avec vos amis, avec votre entourage? Comment ça s'est passé, ce lien, Yves Menou?
Dans mon cas, moi, je suis quelqu'un qui communique relativement facilement. Donc, au moment où la maladie a été diagnostiquée, j'en ai parlé à mes proches. Et puis, au moment où j'ai eu une feuille de route avec une date d'opération, là, j'ai communiqué ouvertement à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise dans laquelle je travaille. Et je continue à parler autant des effets secondaires ou de la vie sexuelle. Bon, alors, j'ai pris la place d'une présidence où j'anime des débats. Donc, peut-être que je suis un petit peu plus extraverti que d'autres. Et puis, je fais un petit peu ça, une mission d'une certaine manière. Mais j'ai toujours très vite communiqué et de manière extrêmement directe. Je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Autant sur ça, sur d'autres problèmes comme l'incontinence, il faut être direct, il faut dire les choses. Mais il faut aussi préciser, ça c'est un point important, qu'il n'y a pas un cancer de la prostate, il y a des cancers de la prostate, c'est chaque fois différent. Si le cancer il est au milieu de la prostate, s'il est sur le côté, s'il est sorti de la capsule, enfin, il y a un million de choses différentes. On parle de sexualité. Est-ce qu'on avait une sexualité avant l'opération? Est-ce qu'on veut avoir une sexualité après l'opération? Il y a énormément de facteurs. Et donc, on peut pas être calqué l'un sur l'autre. Il faut bien comprendre les enjeux de chacun. Si on n'était pas coureur de... coureur et qu'après une opération on veut faire un marathon, la marche est plus haute que si on faisait des marathons avant. Hein. J'aime bien cette image-là parce qu'elle est extrêmement parlante. Mais cette communication active, la vérité fait un peu mal au départ, mais elle permet, à l'instar de Leïla, on crève l'abcès puis on avance. Et puis cet avancement, il a du bon. Et puis il permet d'être fort.
Quand on vous entend, on a l'impression qu'il y a un aspect aussi thérapeutique pour vous, au fond, à vous exprimer, à avoir pris la présidence de cette association. Ça a quelque part joué dans votre...
Malheureusement, pas réellement, en fin de compte, parce que moi, ça fait 12 ans que j'ai un cancer qui continue. Mon PSA continue à évoluer malgré les différents traitements. Ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, j'ai tout de suite pris le package complet. J'ai dit, bon, voilà, j'ai une maladie, donc on m'a proposé un soutien psychologique et avec une sociologue, sexologue. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Ça m'a aidé, ça a permis un petit peu de prendre du recul. Bon, après, on voit d'autres aspects. C'est pas seulement uniquement au niveau de la maladie, mais j'ai pas tout de suite fréquenté les groupes de parole. Mais comme mon cancer a continué à évoluer, après, alors pour que tout le monde comprenne, donc j'ai été opéré. Pendant 2 ans, mon PSA est venu à 0. Au bout de 2 ans, il a redémarré. Donc j'ai eu une radiothérapie classique de 6 semaines. Et puis le taux continue à augmenter. Et j'ai maintenant un suivi actif où je fais une prise de sang et un contrôle chez mon oncologue tous les mois. Et maintenant, j'ai un taux quand même à 12 et un PET scan tous les ans. Donc, il y a cette notion d'épée Damoclès qui reste. Et au bout de 6-7 ans, quand on a commencé à avoir, en fin de compte, au moment de l'ablation de la prostate, j'avais 4-5 de taux de PSA et maintenant, je suis à 12. Donc, au moment où j'ai dépassé ça et que j'avais visualisé dans ma tête que 4-5, ça représentait une framboise dans ma prostate... et qu'à 4-5, en le dépassant, on ne trouvait rien en PET scan, je me suis dit, il y a quand même quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu besoin d'aller dans un groupe, de discuter avec d'autres personnes. On parlait d'hormothérapie, j'avais besoin de comprendre, d'avoir des témoignages. Et c'est là où j'ai mis la main dans une sorte d'engrenage, ou en tout cas ces discussions. Et puis après, l'association, elle est venue parce que, pour des raisons diverses, le comité avait besoin d'être renouvelé. Et voilà. Mais effectivement, ça a un côté positif, ça a un côté thérapeutique. Mais comme on l'a dit avant le début du podcast, des fois, le groupe de parole est libérateur. Il permet de ressortir le cœur léger. Mais par moment, animer ou parler, eh ben on ressort et on a repris quelques trains sur le visage. Et en rentrant, je me paye un bon whisky, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une nuit difficile.
De bonne qualité.
De bonne qualité, oui, ça c'est sûr.
je vous voyais justement acquiescer, docteur Velardi.
Non, mais c'est juste, hein, c'est tout à fait ça. Il y a un processus qui se met en place. Après, encore une fois, il y a des gens, le groupe va être efficace et il y a d'autres personnes. Le fait d'entendre parler de nouveau de la maladie, ça fait exactement l'effet contraire. Donc, je veux dire, ça reste une histoire assez individuelle.
Oui, parce que comme vous disiez, il n'y a pas un cancer de la prostate, il y a autant finalement de cancers de la prostate que d'individus.
Ouais. Après, je dirais qu'effectivement, quand vous avez des gens qui ont une facilité à s'exprimer, ça va être beaucoup plus facile d'entrer en matière. que quand vous êtes face à quelqu'un, comme c'est ce que j'ai dit au début, moi j'ai quand même une catégorie, c'est plutôt des taiseux, hein, donc il faut les, comment dire, il faut y aller par étapes. Une chose que je trouve aussi importante, que ça soit une femme qui parle de sexualité face à un homme, c'est très intéressant parce que elle va être cash, et c'est pas donné à toutes les femmes, hein, de faire ça, je précise. Donc il faut un certain profil, et ça, comment dire, ça facilite la discussion. Parce qu'au fond, c'est un discours très terre-à-terre, et ça, les hommes aiment bien. Hein. On ne part pas dans des espèces de discours un peu alambiqués, et le fait que ce soit une femme qui en parle, ça les met au début peut-être un peu mal à l'aise, mais après, ils se disent, bon, ben, finalement, c'est pas si mal. Voyez mmh. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, je dois dire. Alors qu'étonnamment, chez les femmes, quand on parle, quand elles ont des problématiques gynécologiques, j'ai jamais compris pourquoi, souvent, elles veulent souvent que ce soit des hommes avec qui elles peuvent en parler. C'est assez. C'est énorme, c'est un constat que j'ai fait souvent.
Intéressant.
Ouais.
C'est ce que vous avez ressenti, vous. Vous avez préféré, au fond, voir Étienne, une femme en face de vous, pour parler de ces sujets.
Quand je suis arrivé à la clinique, je ne m'attendais pas à voir Leïla, quoi. C'est vrai que je savais que j'allais rencontrer une infirmière. Je ne savais pas de quoi on allait parler. Et voilà, c'est vrai qu'elle a tellement réussi à nous mettre à l'aise, soit ma femme, soit moi, quoi. Donc, ouais, c'est un moment qui est passé vraiment, vraiment bien. Ça nous a permis de réaliser beaucoup de choses. Et ouais,
Rentre dans ce sens. L'expérience que j'ai sur, puisque je suis genevois, hein, à l'inverse de notre ami valaisan, et les contacts que j'ai avec les institutions genevoises, dont les HUG, il y a des infirmières, et elles me disent exactement la même chose que Leïla et de ce que tu disais, c'est qu'effectivement, le contact est plus facile, et les hommes s'ouvrent beaucoup plus facilement auprès des femmes à ce niveau-là.
Leïla, très concrètement, à ce moment-là, vous leur dites quoi à ces hommes qui arrivent chez vous ?
Moi, je les questionne sur qu'est-ce qu'ils ont compris, sur les effets secondaires qu'ils vont avoir. Déjà, je les fais parler sur ce qu'ils ont retenu de leur consultation avec leur chirurgien. Et souvent, effectivement, c'est très banal. Oui, il m'a dit qu'il y allait avoir au niveau des problèmes au niveau sexuel et puis des fuites urinaires. Donc, je remets le contexte. Donc, j'explique les fuites urinaires, je montre le matériel en lien avec les fuites urinaires. Et pour la sexualité, je dis, est-ce qu'il vous a parlé de vos nerfs érectiles ? Est-ce qu'on garde, on ne garde pas ? Et c'est vrai que là, c'est là que ça commence à se compliquer. Non, je ne sais pas ce que c'est. Et puis là, soit je fais un dessin, soit j'ai un support où j'explique comment ça se passe, la sexualité. Et puis, qu'est-ce qu'elle va induire ? Et puis, le résultat après l'intervention.
À ce moment-là, c'est quoi l'inquiétude majeure des patients que vous voyez ? Il y a un tronc commun ?
Souvent, c'est la découverte des choses, parce que c'est vrai que je ne prends pas 36 000 chemins pour dire les choses. Et puis aussi, j'ai la réponse pour rassurer de ce qu'on peut mettre en place. Effectivement, questionner sur comment était la sexualité avant, il a raison Yves, c'est surtout quand il y a le couple, c'est très intéressant parce que du coup, il y a un échange qui se fait et puis je deviens plus médiateur pour l'expérience des uns et des autres et puis l'importance de la sexualité dans ce couple-là. Donc, une fois que ça, je l'ai bien palpé, je l'ai compris, là, j'axe ma prise en charge selon les besoins du couple. Et ça, c'est très important. C'est clair que si on a un couple qui n'a plus d'activité sexuelle depuis 5-6 ans, ben ça ne sert à rien de batailler. Je donne l'information et, qui est toujours bien prise. Et puis après, je laisse venir.
La réponse, la question à la réponse de qu'est-ce qui vient, c'est est-ce que je vais bander ? À nouveau.
Voilà, mm-hmm. Je n'ai pas osé dire.
Est-ce que je vais avoir une érection ? Est-ce qu'elle va être de qualité ? Est-ce qu'elle va permettre un rapport satisfaisant ?
Voilà.
C'est le numéro un. Et dans les discussions ou dans les appels qu'on a au secrétariat et des problématiques, c'est voilà, ça fait un mois, je n'ai pas réussi, je n'arrive pas, ça fait un an, ça fait, voilà, mais je prends des médicaments, est-ce que je vais devoir faire des injections dans ma verge pour pouvoir avoir une vie sexuelle ? Enfin, voilà, tout ça vient très rapidement. Et alors, Peut-être, mais l'homme, s'il ne bande pas, ce n'est plus un homme, quoi. Je veux dire, c'est ressenti tel quel. Mm-hmm. Et ça, ce côté-là est important. Même si après, il y a d'autres complications sur le stimuli, la manière dont on peut avoir du plaisir, et ainsi de suite.
On revient à cette histoire de virilité dont vous parliez au début. C'est un souci majeur dans cette pathologie.
Assez prioritaire, on va dire. Donc, il faut des gens, je vais utiliser un terme un peu trivial, mais il faut être basique. C'est-à-dire, il faut expliquer concrètement. Et à ce moment-là, et puis il faut des réponses, quoi. Pas des suppositions, parce que là, ça met le doute à chaque fois.
Et dans les réponses qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse très concrète à nouveau ?
Très concrètement, déjà.
Est-ce qu'il faut désapprendre ? Est-ce qu'il faut renoncer ? Est-ce qu'il faut se faire...
Moi, je renonce jamais, sauf si le patient renonce. Moi, j'essaye toujours d'expliquer qu'on peut avoir une sexualité qui peut bien sûr être différente quand on a 30 ans ou si on a 90 ans, mais qu'on peut avoir une activité sexuelle jusqu'à la fin de notre vie, d'une manière ou d'une autre. Selon le besoin du patient, je vais soit axer... maintenant, j'ai introduit les pompes. C'est vrai que la première fois que je parle des pompes, tout le monde me regarde, y compris mes collègues.
Les pompes à vide. Hein.
Tout à fait.
Les pompes à vide. D'air.
Voilà, exactement. Donc, c'est pareil, il y a tout un apprentissage.
Il faut être concret.
On est concret. On y est.
C'est vrai que quand on n'a pas de problème, on ne va pas chercher l'information, on ne s'informe pas, on est dans notre pratique quotidienne, et puis on est à l'aise, et puis on ne cherche pas plus loin. Et quand il y a un dysfonctionnement au niveau de l'activité sexuelle qui arrive, il y a toute une information à donner, un suivi, une éducation, et puis rassurer aussi de se dire que c'est un passage qui va permettre justement une bonne reprise d'une activité sexuelle. Oui, c'est vrai qu'il va y avoir 2-3 mois où il va devoir utiliser la pompe le soir, c'est 10 minutes. Après, on blague un peu. Est-ce que ça va être mécanique ? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut me le faire ? Voilà. On essaye de dédramatiser un petit peu. Mais c'est vrai que moi, j'explique où est-ce qu'ils doivent acheter les médicaments, parce qu'effectivement, le coût du médicament, il est assez important, non pris en charge par l'assurance maladie. Donc, il y a plein de choses.
Pris par la complémentaire.
Ça dépasse pas tout le monde qui est complémentaire.
Enfin, voilà. Ouais, non, mais voilà.
Voilà. Donc, du coup, il y a plein de choses comme ça. Et puis, si on n'explique pas aux patients pour qu'ils puissent justement profiter de tout ce qui existe pour pouvoir reprendre une activité sexuelle, c'est compliqué.
Reprendre une activité sexuelle, mais une activité sexuelle qu'il faudra quand même réinventer.
Hein. Ouais, voilà.
Voilà. Et là, je me permets de compléter parce que c'est le vécu. Hein. Malgré toutes les qualités de Léa et des choses, je ne peux pas savoir. On est moins dans le mécanique et on est plus dans le psychique. Mm-hmm. Donc, il y a besoin d'être beaucoup plus stimulé. Donc, ça demande une communication et un jeu du partenaire qui est différent. Je veux dire, on tire un petit coup facile, vite fait, comme ça, c'est pas aussi simple que ça. Donc, il faut beaucoup de dialogue. Et puis, évidemment, quand les gens ont plusieurs années de dizaines d'années de mariage, il faut redynamiser tout ça. C'est pas évident.
Est-ce qu'on pourrait dire que ça pourrait être parfois aussi vu comme une chance dans un couple justement qui est ensemble depuis très longtemps, de réinventer une nouvelle sexualité ? Leïla ?
Ça dépend des couples. Ça dépend des couples. Il y a des couples, oui, effectivement. Il y a quelque chose. C'est comme un challenge qui s'est installé de refaire des choses nouvelles, des pratiques nouvelles. Alors, souvent, je propose aux patients d'aller voir un sexologue. Des fois, une fois, d'aller voir un sexologue une fois peut donner des pistes, peut aussi désamorcer la situation. Et puis, ça fait du bien au couple. Et puis, de reprendre une nouvelle vie sexuelle. Et ça, j'axe très bien sur quelque chose de nouveau. Et ça, c'est très important.
Vous, Étienne, vous avez été voir un sexologue, je crois.
Oui, une.
Une. À nouveau, on y revient. Voilà.
Oui, on est allé en couple pour en parler, pour parler déjà de l'opération et puis de tous les inconvénients qui sont arrivés suite à l'opération. Et puis, oui, ça nous a aidés pendant quelques temps. Et puis, voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que mon épouse, en fait, elle a eu une opération aussi. Elle a tout enlevé, la matrice, les ovaires et tout. Et puis, elle n'a plus les mêmes envies qu'avant. il n'y a plus le, la même motivation à tout ça, quoi. C'est un peu compliqué d'en parler.
Non, on va pas insister, c'est pas le...
Merci.
Justement, toute cette question de la sexualité qui est liée à la virilité, qui, vous avez dit tout à l'heure, Yves, si on ne borne pas, on n'est pas un homme. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut aussi complètement peut-être regarder d'un autre angle? Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors, ça va être difficile de le faire sous un autre angle à l'heure actuelle, hein, je peux vous le dire. C'est vraiment quelque chose qui est au premier plan. Hein. Mm-hmm. Donc, ça fait partie, malheureusement ou heureusement, de ce qu'est l'homme en soi. C'est comme
parce
ça
que la société nous...
Exactement, parce que... c'est par rapport à son éducation, etc. Donc,
ce sont des thématiques qui sont actuelles. Exact. Aujourd'hui, on questionne beaucoup.
C'est ça. Ce qu'est être un homme. Exactement. Mm. Mais ça reste, je dis encore une fois, c'est très basique. Hein. Et quand on est dans ce sujet-là, c'est un questionnement qui va s'arrêter. Est-ce que je vais pouvoir bander? Est-ce que je ne vais pas pouvoir bander? Comment je vais faire? Etc. Et ça revient systématiquement. Après, encore une fois, il faut aussi une partenaire qui soit bien à l'écoute. Hein. Et qui, quelque part, ça doit bien se passer entre les deux. Sinon, ça devient compliqué. Et on sait très bien que sur l'aspect intime, ça reflète aussi la manière dont fonctionne un couple. Donc, ce n'est pas qu'une histoire sexuelle. Hein, y a d'autres enjeux derrière. Et des fois, j'ai vu des situations où ça arrangeait bien que madame, finalement, que monsieur n'était plus aussi, disons, actif. Elle ne le disait pas ouvertement, mais voilà, on peut voir plein de cas de figure comme ça. Après, ça reste une histoire, je veux dire, intime. Il n'y a pas une règle précise qui dit qu'il faut faire ça, ça ou ça.
On parle beaucoup des couples, mais il y a aussi des hommes seuls, j'imagine, que vous rencontrez dans vos consultations. Est-ce que ça change aussi un peu la manière d'aborder ces questions-là?
Non. J'aborde exactement de la même manière, parce que c'est
pas
exactement comme disait Alfredo. Il y a la virilité, la question de la virilité. Et puis, même s'il n'y a pas de partenaire, moi, j'ai un groupe de patients qui ont des prostituées attitrées. Et puis, pour eux, l'activité sexuelle, elle est importante. Même si le côté sensuel, préliminaire, ne vient pas de premier abord, parce que quand on arrive à parler de ça, souvent ils me disent « Ah non, mais moi je veux juste avoir une érection qui me permet une pénétration, tout le reste c'est secondaire ». Donc là aussi, il y a un soutien à faire, parce que justement la question des injections, il faut apprendre à ces hommes de faire ces injections, comment elles agissent, dans combien de temps, et toute cette éducation, elle doit être faite par quelqu'un à un moment donné. Et s'il n'y a personne derrière, c'est compliqué de soutenir. Et souvent, j'ai des coups de fil 2 mois après, 3 mois après, justement. Et bizarrement, quand ça marche, hein, c'est moi qu'ils appellent en premier pour me dire « c'est bon, ça a marché ». Donc je pense que c'est ça. Moi, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Le résultat de mon travail, je le vois comme ça, quand il y a justement ce lien qui se fait, par exemple, avec Étienne et son épouse. 2 ans et demi après, on a toujours les mêmes relations. Il sait que s'il a besoin de moi, il peut m'appeler, je peux l'orienter, je peux...
Vous restez en lien avec ses patients.
Très important, oui. Mm. Puis aussi, ça leur permet de se dire, si j'ai un problème ou si j'ai une question, je peux l'appeler. Puis moi, je fais le lien entre les médecins et les patients.
Ce lien thérapeutique, justement, vous l'expérimentez depuis un certain nombre d'années. Quelle importance y revêt dans la bonne marche vers un mieux-être, on va dire?
Il y a deux choses fondamentales. La première, c'est qu'il faut vraiment être en confiance avec le suivi médical qu'on a et les gens qui nous entourent. Si on a de la retenue, si on ne peut pas s'exprimer, si on met en doute la parole de l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Et puis après, au niveau des choix qu'on fait, il faut être en confiance avec soi-même. Il faut pouvoir être droit dans ses bottes, si j'ose m'exprimer ainsi, pour pouvoir affronter les choix qui sont faits. On a beaucoup parlé de sexualité, mais dans des groupes de discussion, moi, j'ai des gens qui viennent et qui me disent aussi « je ne veux pas me faire opérer parce que j'ai peur de l'incontinence ». Donc, il faut aussi expliquer qu'est-ce que l'incontinence. Ce n'est pas forcément des litres d'eau, ça peut être que quelques gouttes ou des petits jets. Il y a plusieurs choses et on donne souvent, même pour des gens, donc dans les groupes, on a souvent des gens qui ont déjà été opérés ou qui sont en traitement. Après, quand les gens s'en sortent, on ne les voit plus, hein, et tant mieux. Mais c'est n'allez pas seul à un rendez-vous. Parce qu'au moment où vous entendez le mot cancer, vous, vous switchez votre cerveau et puis tout ce que le médecin va dire, eh ben, vous n'allez pas forcément le capter. Donc, avoir une personne tierce qui peut capter, préparez vos questions à l'avance. Vous avez des questions, notez-les. Et puis, vous ne vous sortez pas du cabinet tant qu'il n'a pas répondu à toutes les questions. Ayez un deuxième avis. Il y a toute une manière de se préparer. Alors maintenant, c'est vrai, le travail que tu fais, je l'ai vu aussi au HUG, comparativement à mon opération il y a 12 ans en arrière, il y a d'énormes efforts qui ont été faits de communication. Par exemple, le travail sur le périnée. Quand j'ai été opéré, on ne faisait pas du travail avant l'opération. Maintenant, on fait du travail avant. Et ben ça, c'est une très bonne chose.
Et dans le lien que vous entretenez avec les médecins, est-ce qu'il y a un lien de confiance qui s'instaure?
Totalement. Ah ouais, je pense que ça,
c'est super important.
Hein. Ouais, il est super important. Si on ne croit pas à ce qu'on fait, on part pas gagnant.
Donc s'il n'y a pas ce lien de confiance, il faudrait changer de médecin, c'est ça un peu
si
l'idée?
Si vous n'avez pas de lien de confiance, oui, il faut changer de médecin. Mais ça, c'est valable dans tout, hein, je veux dire. Il y a une chose que je trouve qui a bien changé dans les années, hein, c'est qu'il y a plus d'informations qui est données maintenant aux patients, ce qui était moins le cas avant. Et puis, très justement, il faut, la première fois quand on voit un médecin oncologue, ce qui est hyper important, c'est d'avoir quelqu'un à côté, parce que l'information, on ne va pas forcément l'entendre. Et moi, ça m'a toujours frappé de voir après des patients, quand je leur posais la question « Mais qu'est-ce que vous a dit l'oncologue ?» J'étais assez étonné de voir qu'en en fait, ils n'avaient pas capté le quart de l'information. Alors, c'est clair, hein, c'est quand même un bon coup sur la tête. Il y a ce côté, comme on dit, du déni. Et des fois, moi, j'ai dû revenir deux fois, trois fois, quatre fois dessus pour que l'information, elle a été plus ou moins entendue, même si j'avais un collègue ou une collègue qui me disait « Mais j'ai tout dit, j'ai tout expliqué. » Oui, mais il faut assimiler l'information. Et puis même quand on l'a entendu, ça va prendre du temps. Et puis tout à coup, il y a des questions qui vont revenir après. Et il y a tout un travail où on doit insister et de dire au patient, de dire, mais il faut poser la question. Ce n'est pas moi qui vais la poser. Il faut que vous l'entendiez de la part de l'oncologue, pas de moi. Voyez. Et ça, c'est tout un travail qui se fait au long cours. Et je dirais que maintenant, l'information, elle est souvent répétée. On en parle beaucoup plus qu'avant. Donc, ça change quand même la donne. Et puis, la différence, c'est que maintenant, je dirais, les patients sont nettement mieux informés qu'avant. Ils vont chercher aussi l'information sur Internet. Et si ce n'est pas eux, c'est les proches qui vont le chercher. Et ça change aussi, je dirais, aussi l'interaction avec le médecin. Des fois, c'est bien. Des fois, quand ils commencent à parler de pourcentage, de taux de survie, effectivement, là, c'est toujours un peu délicat parce que le médecin, il n'a pas forcément toujours la réponse. Parce qu'on fait une médecine de statistiques aussi.
Oui, parce que ça, c'est un des gros aspects aussi. C'est que quand on nous annonce un cancer, quel qu'il soit, le mot qui arrive juste derrière,
c'est mort. Exactement.
Mmh.
Mais en fait, je dirais que c'est pas... On a fait d'énormes progrès.
Bien sûr.
Donc, il y a quand même des choses qui ont énormément changé avec le temps. Moi, j'ai des souvenirs au début, quand j'ai commencé à suivre des patients en oncologie, bah, effectivement, c'était pas, disons, tout simple. Maintenant, il y a quand même une sacrée différence au niveau des traitements, au niveau des effets secondaires. Il y a quand même une sacrée évolution. Et même au niveau des radiothérapies, moi j'ai des souvenirs au début, c'était quand même pas tout simple. Maintenant, il y a quand même des choses qui ont bien changé. On voit quand même moins d'effets, moins d'impact. Donc ça change quand même aussi dans l'appréhension du patient. Et on peut lui dire, non mais attention, oui c'est un traitement lourd, mais quelque part, la réponse est bonne.
C'est un traitement.
Mais ça reste un traitement.
Vous, cette ombre-là, vous l'avez ressentie? Vous avez eu...
Moi, ça me fait remonter des choses. C'est que quand j'ai appris mon cancer, c'était encore le Covid. Donc, j'ai rencontré l'urologue avec le masque. Je n'ai jamais vu son visage jusqu'à 6 mois ou 8 mois après l'opération. Et il a beaucoup écourté les consultations, en fait. Et donner des prospectus, puis dire aller sur Internet pour prendre des renseignements. C'était un peu... J'étais dans le flou total. Ouais. Ouais, exactement. C'était assez compliqué. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, je me suis vraiment mis dans ma bulle et puis j'ai essayé de regarder des choses sur Internet et j'ai continué de travailler. Donc ça m'a beaucoup aidé, le fait d'avoir une activité. Mais l'information proprement dite sur ce que j'avais, sur mon cancer, c'était zéro.
Internet, il faut y aller ou pas alors ?
J'ai pas fait long. J'ai pas fait long parce que il y a tellement d'informations et on ne sait pas exactement où aller chercher. Et puis,
Je dirais qu'il faut aller sur enfin, il faut conseiller certains sites et puis il faut discuter avec le patient pour que voilà, il se renseigne. Il y a quelque chose qui va l'interpeller, il faut revenir dessus. Mais ça prend énormément de temps. C'est pas si simple. Alors, je dirais, il faut, oui, on peut y aller, mais sous certaines conditions. Puis ce qui est important pour un patient, c'est d'avoir toujours une personne de référence. C'est la personne sur laquelle on va pouvoir chaque fois se référer. Et ça, c'est hyper important pour le patient. Ça peut être le médecin, ça peut être l'infirmière, enfin. Mais souvent, on voit les patients aller toujours vers cette personne. Ben, c'est ton cas. Où on va poser les questions. Hein. Et puis après, ben, voilà, on a besoin d'avoir cette interface. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et souvent, les patients, moi, j'ai eu des fois des appels 2 ans, 3 ans, 6 ans après, 8 ans après, voilà, parce qu'on a une inquiétude ou une question. Et ça, c'est des choses, pour un patient, c'est hyper important. Enfin, en l'occurrence, pour le cancer de la prostate, mais on le voit aussi dans les autres cancers, c'est exactement la même chose.
Vous parliez tout à l'heure du travail qui nous a beaucoup aidé. Ça, c'est en quoi ça vous a aidé? Ça vous changeait les idées?
Ça me changeait les idées. J'oubliais. Je faisais ma journée, je faisais mon boulot. Par contre, une fois que je rentre à la maison,
ça recommençait.
Ça recommence, ouais. Moi, je me suis dirigé vers mon généraliste. J'allais le voir. J'ai discuté 2-3 fois avec lui parce que je n'avais pas eu la communication que je voulais avec l'urologue. Parce que l'oncologue, j'en ai vu aucun avant l'année passée, en fait. Parce que le docteur qui m'a opéré, le chirurgien, je l'ai rencontré l'année passée au mois de novembre pour la première fois. Il m'a opéré pendant une heure et demie, je ne sais pas combien de temps ça dure. Et voilà. Mais j'ai pu parler avec lui à ce moment-là, mais une année et demie après l'opération. C'est vrai que je suis passé par, je peux dire, des sales moments, parce que je me sentais seul. Et puis après, ben, je me suis reconstruit un peu tout seul avec ma famille. Quoi.
Donc pas complètement tout seul?
Pas tout seul, mais au début, oui, quand même. Et puis après... Ben, on essaie de reprendre une vie plus ou moins normale et normale. Maintenant, je peux dire que je vais bien parce que j'ai aucun, à part par des problèmes d'érection, comme il disait Yves tout à l'heure, et puis de temps en temps un petit peu d'incontinence, mais ça c'est tellement rare, c'est devenu tellement rare que c'est plus un problème. Et puis physiquement, autrement, ça va bien, quoi.
Ouais, j'aimerais rajouter, c'est les médecins nous aident à traiter une maladie, mais nous on traite notre peur. Et ça, c'est un moteur puissant, la peur. Et quand on se retrouve, quand tu parles, moi ça me donne la chair de poule parce que c'est tout de suite présent, c'est tout de suite là. Et le cancer en général, ce grand mot, gros mot, grand mot, enfin voilà, ça nous rapproche de cette finalité qu'on a tous, mais tout d'un coup, elle est tout de suite beaucoup plus présente. Et j'ai été, évidemment, avec l'association, on est souvent invité. J'étais un colloque de radiologues. Mmh. Ils ont parlé entre eux, avantages, nouvelles techniques. Ils étaient tous super contents. Puis moi, je passais en dernier pour le patient qui fait le mot de la fin. Puis j'ai dit, c'est génial tout ce que vous avez dit, c'est top. Mais tout ce que vous faites là, moi, la seule chose que ça m'envisage, c'est de la peur. Ma propre peur comparativement à la maladie et le suivi. Et vos patients, c'est la même chose. Vous devez intégrer ce facteur-là. Alors, nous, on vit ça. Et toutes les personnes qui ont des maladies graves, elles vivent d'abord une peur, avant même d'avoir cette maladie. Je pense que ça, c'est un point important sur lequel, autant il y a des efforts qui ont été faits, mais autant il y a encore des marges de manœuvre qui sont assez grandes.
Plus d'empathie.
Empathie, oui, le mot est juste. Ouais, le mot est juste.
Leïla, je vous ai vu réagir.
Je suis d'accord avec lui. Effectivement, il y a beaucoup de peur. Et puis, et c'est vrai que c'est des périodes. Je dis souvent aux patients, ben vous allez voir, vous allez vivre des vagues comme ça. À un moment donné, vous êtes dans le creux. Et puis après, vous allez remonter. Mais c'est clair que en tout cas pour la prostate, il n'y a pas un suivi régulier sur plusieurs années. Mais c'est vrai que ça passe par des peurs, par des inquiétudes. Ce PSA, à chaque fois qu'il est fait, il y a une angoisse qui est là de se dire quel sera le résultat. Et ça, c'est tout le temps, en fait. Il n'y a pas un moment où il y a un répit, où on se débarrasse de ça.
Est-ce que l'entourage a un rôle à jouer pour, disons, canaliser ses peurs ?
Non, parce que c'est individuel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Chaque cancer est unique, chaque patient est unique. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer aux patients. Je veux dire, c'est souvent, quand ils en parlent avec leur entourage, hein, mais j'ai un ami qui a eu la même chose que moi, il m'a dit, j'essaye de dire non. C'est vous, votre ami, c'est votre ami. Et ça, c'est très important. On pourrait avoir un patient qui va bien gérer, si j'ose dire ça comme ça, mais un patient que ça va le dévaster dans sa vie quotidienne, dans ses sentiments, dans sa peur. Et ça, il y a besoin de soutien, il y a besoin de suivi et quotidien.
Je dirais que des fois, l'entourage, une fois que le patient a passé tous les caps et que l'entourage voit que la personne ne va pas si mal que ça, il y a comme on oublie, hein, il y a un effet de banalisation. Souvent, on le voit, ça. Et puis, souvent, quand on discute avec certains patients, ils le disent. Ils disent, mon entourage a l'impression que ça va bien. En attendant, moi, je vais bientôt avoir mon examen. Je les ai comme ça, etc. Et l'entourage va lui dire, non, mais c'est pas grave. Écoute, tu vas bien. Vous voyez, on entend souvent ce genre de discours. Donc, le soutien de l'entourage, oui, jusqu'à un certain point. Après, ils vivent pas. En fait, ils le vivent par procuration. Donc, c'est pas tout à fait la même perception. Hein.
Ouais, on en revient au début où je disais, quand on apprend le cancer, on n'est pas malade. Mm-hmm. Et puis après, une fois qu'on a traité, on c'est a ça. Un suivi, nous, on sait qu'on est malade, puis les autres ne nous voient plus comme un malade.
Exactement. C'est ça.
Il y a un passage de témoin d'une certaine manière. Et c'est vrai que moi, j'ai un contrôle tous les mois. Dès que je le vois dans mon agenda, il y a un peu de stress. Puis au moment où j'ai fait ma prise de sang, juste avant d'avoir le résultat, y a encore plus de stress. Est-ce que ça montait ? Est-ce que ça baissait ? Est-ce que ça va devoir déclencher un PET scan ? Est-ce que c'est plus sérieux ? Voilà. Et ça, et même, j'ai essayé de ne pas en parler. Voilà, parce que je prends le vendredi. Je fais toujours le vendredi. On a le week-end et je vois mon oncologue le mercredi suivant. Et j'ai essayé de ne pas en parler. Ma femme, elle me dit, toi, t'as fait ta prise de sang parce que, malgré le fait que je fasse l'effort, je suis, je sais pas, plus électrique, plus différent, d'une certaine manière. Moi, j'ai pas l'impression, hein, mais ma femme et mes enfants le ressentent. Ouais.
Et dans ces cas-là, ça vous aide d'en parler ensemble ou pas ?
Non, non, personnellement, non. Ça... Des fois, oui, mais majoritairement non, parce que là où c'est vraiment problématique, c'est quand on se retrouve tout seul le soir, seul.
Et la rumination arrive.
Voilà, ouais, c'est ça. Dans la journée, on peut aller au travail. Le travail est un moteur extraordinaire. Il permet d'oublier. Après, on peut être pris dans un quotidien. Et puis, c'est quand on se réveille au milieu de la nuit parce qu'on doit aller faire pipi 3 gouttes. Et puis, on se recouche. Puis, on ne retrouve pas le sommeil immédiatement. Puis, c'est là où, effectivement, on commence à ruminer. Et puis, que la situation devient bien plus compliquée.
Vous, vous êtes avec cette association, vous ouvrez un espace de dialogue. Qu'est-ce qu'il faut, faudrait encore améliorer ?
Dans la santé, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça, c'est clair. Il faut prendre en main son destin. Il faut se poser des questions, il faut rechercher. Alors, évidemment, si l'information vient plus facilement et est plus accessible, ça, c'est une très bonne chose. Mais au-delà de ça, personne ne va le faire pour soi. Donc, il faut vraiment... Puis quand on a une question, il faut la noter, il faut des fois bagarrer avec le système médical pour ne pas être rejeté ou avoir un... Et ça, c'est seul ou avec son conjoint, une bataille à mener. Mais c'est que par soi-même qu'on peut prendre les bonnes décisions et qu'on peut avoir ce bon suivi. Il faut demander des copies des rapports médicaux, parce que 2 ans plus tard, on ne sait plus où c'est, parce que le médecin, il a déménagé ou il est à la retraite, et puis on n'a plus. Maintenant, il commence à avoir des systèmes où on peut avoir tous ces dossiers en ligne, centralisés. Ça permet une meilleure visibilité pour les médecins suivants. Mais tout ça, c'est une bataille personnelle, hein.
En somme, devenir un peu un patient expert, on parle beaucoup de cette notion aujourd'hui de patient expert, hein, qui finalement, comme vous venez de l'expliquer, va chercher les informations par lui-même et devient un peu un expert de sa propre maladie. C'est un peu le conseil que vous donnez.
C'est vrai, mais il faut garder un équilibre. Il faut aussi savoir lever le pied, décrocher, penser à autre chose. Il ne faut pas partir dans une boucle, parce que sinon on va se retrouver chez mon collègue de droite pour une thérapie. Il faut avoir du bon sens. Du bon sens, c'est d'être pragmatique, des choses basiques. Mais on revient aux basiques. Mm-hmm. On parlait de basique sexualité, mm-hmm. mais au niveau du suivi, ça aussi, c'est important. En tout cas, à mes yeux et à ma vision de la maladie.
Mm. Comment on fait justement pour sortir un peu de...
Je pense que...
De la maladie.
Sortir de la maladie, c'est compliqué parce que ça reste une épée de Damoclès qui est toujours là avec des échéances. Alors encore une fois, si c'est quelque chose qui est traité de manière définitive, on va être inquiet peut-être pendant un petit moment, mais après, bon voilà, la vie va faire qu'on n'y pensera plus. Quand on est dans un autre cas de figure où on sait qu'on doit faire des contrôles, c'est pas simple de sortir de là. Alors effectivement, il faut trouver des stratégies, mais qui restent encore une fois personnelles. Le travail, des occupations pour essayer de ne pas toujours être dedans. Mais il y a toujours cette épée de Damoclès qui est là. Et souvent, on peut... Ben moi, des fois, j'ai des patients qui sont épuisés de ça. Parce que la première année, ça va. La deuxième année, ça va. La troisième, et puis ça continue. Et il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Donc, il n'y a pas une recette de cuisine où on va vous dire « faites de la méditation, de la pleine conscience ».
Moi, je fume le cigare.
Voilà, c'est très bien. Donc, je veux dire, ça reste très individuel.
Chacun ses trucs.
Exactement, ça reste très individuel. Puis, je voulais juste ajouter encore une chose. Je pense qu'il est hyper important que le patient soit un partenaire actif. Il ne doit pas rester passif. Et s'il n'est pas convaincu, eh ben, il faut qu'il ait cherché l'information. S'il a besoin d'un deuxième avis, ben, il demande un deuxième avis. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Mais il doit vraiment aller chercher l'information. Et encore une fois, s'il est proactif, ça va l'aider. Parce qu'il fait partie du traitement. Hein. Ce n'est pas qu'une histoire oncologique ou de radiothérapie. Hein. C'est un tout, hein, je le précise. Et on sait qu'en termes de taux de survie, si le patient est bien psychiquement, ben, le taux de survie va augmenter. Ce n'est pas qu'une histoire de traitement. Il y a une réalité en soi. Voyez. Et ça, il faut faire attention. Je veux dire, il faut vraiment motiver des fois le patient quand il a un coup de mou, le pousser, lui dire « bon, allez, il faut y aller maintenant ». Vous voyez, c'est ça qui marche.
Leïla, peut-être le mot de la fin.
Pour moi, le patient, il est partenaire dans le parcours de soins. Et effectivement, je rejoins ce qu'il disait Alfredo, c'est que si le patient n'est pas convaincu de sa prise en charge, il faut qu'il demande un deuxième avis. Et il faut qu'il ait des réponses à ces questions pour être justement rassuré et pour pouvoir justement affronter le suivi, les échéances et tout ce qui s'en suit.
Merci beaucoup. Merci à vous quatre.
Merci.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des ressources sur le cancer de la prostate en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois.